Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotion avec les offres Canal+.
Et Jean-François Bodin qui revient tout à l'heure à 17h45 pour le journal. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'une semaine formidable. Je vous présente nos invités du jour, Bruno Salvet, Éric Figuère et Olivier Deniaud. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Je vous propose qu'on commence par le rugby. Hein, ça nous changera un petit peu. Puis il y a pas mal... Le sport roi, effectivement, on a fait venir Bruno Salvet, donc on parle rugby.
En toute modestie.
Non, il y a une grosse actu rugby. Bien sûr, le top 14 qui se poursuit, puis le début du tournoi de destination, ce sera vendredi matin pour nous. On va parler du top 14 pour commencer avec une nouvelle journée ce week-end. Je vous rappelle les résultats. Montpellier s'est imposé 44-7 sur le Stade Français. Victoire du Racing 37-31 face à Perpignan. Désolé Eric. Lyon s'est imposé 44-24 sur la pelouse de La Rochelle. Castres s'est imposé 28-23 face à Clermont. Victoire de l'Union Bordeaux-Bègles en déplacement à Montauban 31-16. Toulouse s'est imposé 31-10 sur Bayonne. Enfin, Pau ce matin s'est imposé 32-12 sur Toulon. Bruno Salvet, résultat conforme à ce qu'on peut attendre d'une telle journée de championnat, en sachant que pas mal d'internationaux ont filé avec l'équipe de France.
Absolument, oui. Les internationaux sont en marque aussi pour préparer, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le début du tournoi qui aura lieu cette semaine, ouais. D'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, donc, les résultats sont conformes. Il y a deux surprises, quoi. Une surprise, c'est surtout la victoire à l'extérieur de Lyon, qui est allé battre La Rochelle. Ouais. Bon, La Rochelle qui est un peu dans des conditions difficiles, hein, suite à l'actualité du club et surtout suite à l'infarctus de Winnie Antonio. Donc je pense que les joueurs ont été
un peu secoués,
sensibilisés. Et puis bon, c'est quand même un monument de ce club et puis bien sûr de l'équipe de France.
Bien
donc
sûr.
C'est il faut une petite pensée pour ce joueur. Bon, il y a une vie après le rugby. Donc on espère fortement qu'il s'en sorte rapidement et qu'il puisse poursuivre sa vie d'entraîneur, parce que je pense qu'il entraînait déjà la mêlée rochelaise. Mm-hmm. Et puis ensuite, autre victoire à l'extérieur, c'est Bordeaux-Bègles qui est allé s'imposer à Montauban. Montauban, bon dernier de ce top 14 cette année. Et pour en parler, puisque je sais que Eric aime bien l'équipe de Perpignan qui a failli créer l'exploit vraiment au Racing.
Ça,
hein, puisque
pas grand chose. À peu près 80 kilos d'écart entre Carbono et
ah oui, au moins.
Et oui, 80, parce que c'est 150 kilos pour le catalan.
Pour Tuilagi.
Voilà, un petit 80 kilos pour
Carbono. Carbono, voilà. Qui arrive à éviter l'essai de Perpignan en fin de match, qui aurait donné la victoire à l'équipe de Perpignan, qui revient très très fort. Et je pense que c'est une équipe qui va creuser l'écart avec les Montalbanais et va pouvoir se maintenir dans ce top 14.
En même temps, il y a un écart qui est abyssal entre Lyon et Perpignan, entre le 12e et le 13e. 32 points pour Lyon,
absolument.
14 pour Perpignan.
Absolument.
Oui, ils ne reviendront pas. Mais en finissant correctement la saison, ils auront un barrage
à la maison.
À la maison, et puis dans de bien meilleures conditions que si ça avait été la Bérésina. Là, ça rejoue beaucoup mieux, on voit que c'est beaucoup plus cohérent. Voilà, les forces se sont réunies un petit peu et puis ça commence à prendre forme.
Et en haut de classement, Toulouse qui continue son championnat tranquille, j'allais dire. Ouais. Ils n'ont plus d'internationaux.
Toulouse caracole en tête. Bien, ils ont eu du mal contre les Basques, hein, contre Bayonne quand même. Ils se sont imposés en fin de match. Mais la statistique, c'est que sur le maximum de points qu'on peut prendre à la maison, c'est 45. Et ils en ont pris 44. Donc ils n'ont pris que des bonus. Une seule fois où ils n'ont pas pris un bonus. Offensif. Donc c'est vrai que Toulouse est à 58 points, suivi de Pau et Bordeaux qui est pas loin, à 45. Mmh. Et puis après, on se rend compte que du 3e jusqu'au 9e, ça se joue entre
4 points.
Ouais. 4 points, donc tout est ouvert encore pour cette course aux phases finales et à la qualification. Voilà. Ouais. Donc ça va être un championnat qui va être encore qui va nous amener énormément de passion et de on va dire beaucoup de matchs difficile à jouer.
Ouais. Un petit mot sur La Rochelle, qui est dixième, qui est un peu distancé, 37 points. Ils sont encore dans la course, les Rochelais, pour aller jouer les phases finales, ou ça va être un peu juste?
Ça va être un peu... Quoi, c'est compliqué depuis le début de la saison, hein, pour l'équipe rochelaise.
C'est un peu en Nancy, ouais.
C'est en Nancy. Bon, voilà, et maintenant, voilà, il faut voir si le groupe arrive à... Quoi. Ronan O'Gara est un bon entraîneur. Il a amené cette équipe... un titre de champion d'Europe, finaliste du top 14. Donc, ils sont toujours en course, d'ailleurs, dans la Coupe d'Europe. Donc, ils sont bien placés. Donc, voilà, à suivre. On espère bien sûr que cette équipe s'impose. Mais bon, après, il y a le Racing, il y a Clermont, il y a Castres, il y a Toulon, le Stade français et Montpellier. Surprise de Montpellier, ouais, qui est quatrième. Donc, qui fait aussi un début de saison assez intéressante. Donc, ça laisse beaucoup, beaucoup de suspense pour la course à la qualification.
Olivier Deligneau, vous suivez le top 14?
Oui, je suis. Pas autant que Bruno, évidemment. mais c'est vrai que maintenant, on arrive à avoir des fois des surprises dans les résultats et le niveau, j'ai l'impression qu'il augmente de plus en plus. Je crois qu'au niveau de la préparation des joueurs, on est de plus en plus, je ne vais pas dire stéréotypé, mais enfin, avec tous les datas et tout, maintenant, tous les clubs bénéficient des nouvelles technologies et ont tendance à, que ce soit la vidéo, que ce soit les GPS sur les joueurs, que ce soit après tout ce qu'on peut utiliser au niveau de l'entraînement sportif. Donc,
alors, je ne parle pas forcément pour le rugby, mais pour la discipline que vous connaissez bien, tout ce qui est data, intelligence artificielle, ça commence vraiment à rentrer dans le...
On s'en sert énormément, et pas plus tard que tout à l'heure, là, j'ai encore une visio concernant l'utilisation des GPS et de la vidéo pour pouvoir lier les deux et utiliser avec tout ce qui est cardio-fréquence-mètre. Maintenant, on utilise les prises de lactate à la fin de l'entraînement pour savoir dans quel secteur physiologique on se situe, pour voir si on n'est pas en surentraînement. Enfin, vous voyez, tiens, j'ai une bague là. Ouais. Je teste la fameuse bague connectée qu'on a distribuée à tous les sportifs qui font partie de la cellule de haut niveau. Et les coachs sont là. Mm-hmm. Ça m'a permis de me rendre compte que mon sommeil, en fonction de l'heure à laquelle je mangeais, de ce que je mangeais et éventuellement... buvait, n'était pas du tout le même et était plus ou moins efficace, et ça joue énormément au niveau de la récupération. Ouais. On pourra parler tout à l'heure, je pense que si on aborde le sujet du tennis, récupération entre deux matchs, ce que font les joueurs, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment un des points très importants au niveau du suivi des sportifs, quel que soit le sport d'ailleurs.
Bruno, ça vous surprend pas?
C'est vrai que je pense qu'en football c'est exactement la même chose. Ils sont tous équipés de GPS et ce qui permet aux entraîneurs.
Je suis étonné de voir au rugby l'équipe qui constitue un staff, mais ils sont en avance sur beaucoup d'autres sports.
Ils arrivent à calculer le kilométrage, vitesse, et puis ils se rendent compte avec les données GPS, comme tu le disais.
Et l'état de fatigue aussi.
Carrément,
qu'en fonction des pulsations, si tu descends pas en dessous d'un seuil,
les changements
qui sont faits.
Ils sont faits par rapport aux données GPS et les datas. Donc c'est vrai qu'on est de plus en plus dans la technologie, mais c'est aussi quelque part sécuriser la santé des joueurs aussi. Le joueur qui est dans le rouge, on le voit de suite, et puis donc on le fait sortir. Surtout, je pense aux joueurs de première ligne qui sont sur des postes où il y a des contraintes physiques très importantes et où une blessure peut rapidement arriver.
Éric Figuère, vous aimez le rugby, le football, vous jouez très bien au golf, je vous connais. Est-ce que l'intelligence artificielle, toutes ces technologies, ça entre en compte dans le sport que vous pratiquez?
Alors, pas tant pour la récupération, pour l'état physique des joueurs, mais par rapport à leurs entraînements, les datas aujourd'hui, les données sont très très importantes, et aujourd'hui tous les joueurs de haut niveau, tous les joueurs professionnels et les meilleurs amateurs ont avec eux, forcément le plus connu c'est le Trackman, donc c'est un ordinateur effectivement qu'on place derrière soi lorsqu'on s'entraîne, et qui donne accès effectivement à tout un tas de données et qui sont indispensables aujourd'hui, qui donnent une multitude de renseignements indispensables aujourd'hui.
Vous utilisez ce genre...
Non, parce que moi je suis un vieux grigou.
Oh, mais...
Bon, voilà,
quand mais on aime son sport, on
bien
peut...
Bien sûr, bien sûr, mais voilà. On l'utilise surtout pour nos meilleurs jeunes, ça mais, c'est important.
Sûr, voilà.
Et puis pour les vieux, bah, on l'utilise voilà, pour avoir des indications intéressantes, sympathiques, voilà, mais on n'en est plus là, non, malheureusement.
C'est vrai que la contrainte, Bruno. Pour revenir au golf, parce que moi j'ai fait mes études au Krebs de Toulouse, à l'Espinet, et il y a deux ou trois trous, un petit parcours de golf qui est à l'intérieur du Krebs, et c'est vrai que je regardais les jeunes du pôle qui s'entraînaient, donc ils tapaient une approche, ils partaient en courant sur un autre trou pour le rejouer assez rapidement, donc on les met sous de la contrainte ou sous une fatigue physique que l'on crée en les faisant courir, en les faisant trottiner, pour pouvoir voir comment ils réagissent, comment ils arrivent à faire baisser leur rythme cardiaque et comment bien s'appliquer sur leurs gestes.
Donc c'est important pour l'entraînement, mais c'est aussi important les jours de tournoi. Et chaque début d'entraînement, les données servent aussi à savoir l'état de forme du jour, à savoir quelle capacité le joueur a, savoir
mais est-ce
qu'il
que
va
ça
avoir
peut...
à gérer pour la journée.
Mais Olivier, je pense à une chose, est-ce que ça peut pas mettre une certaine pression pour l'athlète qui va se lever le matin, alors peut-être que les datas sont pas super parce que peut-être dormi 5 minutes de moins, etc. Alors, est-ce que ça met pas une pression supplémentaire en se disant aujourd'hui je suis pas bien.
Le danger c'est ça, c'est qu'il faut pas non plus rester figé par rapport à ces données. Alors moi je vois le matin, c'est vrai que du coup maintenant que j'ai ça, je regarde mes pulsations, est-ce que j'ai passé une bonne nuit ou pas. Des fois, j'ai l'impression d'avoir passé une bonne nuit, puis les données montrent que je me suis réveillé, j'ai fait des micro-réveils. Je vois, pas tant que ça, mais bon, c'est pas grave. Mais le danger, c'est ça. C'est un peu comme au Tour de France, hein, quand t'as l'oreillette ou quand t'as pas l'oreillette. Si t'as envie d'attaquer, ou quand t'as ton cardio-fréquence-mètre qui te dit attention, tu vas dépasser le seuil, mais que tu te sens bien, il y a des fois, faut débrancher, faut laisser faire l'esprit. Enfin, c'est un plus.
C'est un plus. Voilà. Rien ne remplace les sensations, l'instinct sportif.
C'est simplement des données, c'est des algorithmes qui font qu'on multiplie les données, parce que moi, mes données sont connectées sur le site, qui sont connectées avec les données des plus grands champions dont je ne fais pas partie, donc je pense que mes données, ils les mettent de côté, personne ne les regarde, mais c'est pas grave. Mais n'empêche
il paraît qu'ils ont filé à Usain Bolt.
Il y en a qui surveillent mon temps de sommeil. Bon, peut-être ma femme, mais elle n'a pas accès aux données, mais ça encore, c'est autre chose. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, il ne faut pas non plus rester connecté là-dessus, c'est comme si la technologie
de foot ou de rugby avait l'oreillette, fais la passe à droite. Non, on n'en est pas là. Voilà, c'est ça. On va refermer cette petite parenthèse fort intéressante d'ailleurs. On va continuer de parler de rugby, puisque on le disait, le coup d'envoi du tournoi des destinations. Alors ça commence vendredi matin pour nous, donc c'est un jeudi en métropole, 7h du matin, l'équipe de France qui accueillera l'Irlande, hein, c'est ça, au Stade de France.
On saura tout de suite comme ça.
Au Stade de France. L'Irlande, c'est une revanche de l'année dernière, puisque les Français avaient été s'imposer en Irlande de 42-27, il me semble, 42-27 contre les Irlandais. Et on se souvient tous que lors de ce match, Antoine Dupont s'était fait tordre le genou par un Irlandais. Donc voilà, ça va être un match, on va dire revanche, mais ça va être un match intéressant et à un horaire, une date étonnante, puisqu'il joue le jeudi soir, en métropole pour cause d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Donc la cérémonie aura lieu le vendredi. Donc ils ont préféré avancer cette rencontre. Donc voilà, avec une équipe de France qu'on espère conquérante. Et bon, déjà sans Winnie Antonio, puisque on a perdu un pilier, une poutre, vraiment la poutre du pack français. Pilier droit, c'est un des postes les plus stratégiques au niveau de la première ligne, puisque c'est lui qui pousse la tête.
Un jour, il faudrait que vous m'expliquiez à tête reposée cette histoire de pilier droit, parce que j'ai toujours pas compris.
C'est trop compliqué, mais bon, en gros, le pilier droit, il a la tête prise par rapport au pilier gauche qui a la tête à l'extérieur.
Très bien. Voilà. Non, mais si vous le dites, je vous crois sur parole.
Voilà. Et donc, avec un groupe qui s'entraîne déjà, Galtier a pu les avoir depuis 2 semaines. Donc, la préparation suit son cours à Marcoussis. Et puis, on espère une belle prestation des Français. Et d'ailleurs, les Irlandais ont des gros problèmes aussi en première ligne, puisqu'ils ont une série de blessures, notamment en première ligne, donc au niveau de leur pilier aussi. Donc, le secteur de la mêlée va être prépondérant sur cette match.
L'équipe de France favori pour ce tournoi des destinations. clairement ou pas tout à fait?
Pas clairement, parce que les Anglais, je pense, ont fait une bonne tournée d'automne. Ils ont accroché les équipes, ils ont eu de belles victoires. Je pense que ça va se jouer entre les Français et les Anglais.
Donc ça va se jouer au dernier match, dernier crunch.
Normalement.
Ouais, voilà.
Bon, faut voir le résultat, quoi. Il faut déjà battre les Irlandais, reprendre match après match.
Oui.
Parce que le calendrier est quand même relativement favorable pour les Français. Donc voilà.
Ouais.
On va espérer.
Éric,
pour ce qui est du tournoi, c'est effectivement une année favorable, puisqu'on reçoit trois fois, et en recevant en plus l'Irlande au début et l'Angleterre à la fin. Donc voilà, s'ils se lancent bien, évidemment qu'ils seront pour le coup favoris, même si le dernier match contre l'Angleterre, avec effectivement l'Angleterre qui s'est bien remis sur les bons rails et qui va prétendre à quelque chose à la Coupe du Monde, je le pense. Donc ça va être très intéressant. Et le tournoi est effectivement important, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce qui va en découler et c'est ce qui va amener l'équipe de France à la Coupe du Monde. Ça, c'est pour moi le plus important. Donc ça servira, certes, il est toujours important de gagner le tournoi et si possible en faisant le grand chelem, bien évidemment, mais surtout de bien se préparer en ne perdant personne en cours de route, et surtout pas les plus importants.
Même
on sait qu'on a quand même un vivier, pour le coup, très large, mais il y a des postes, effectivement, on a déjà perdu Winnie Antonio, donc il ne faut pas en perdre plus, et puis pas reperdre un joueur comme Dupont, bien évidemment.
Mmh. Olivier ?
Ben moi, j'attends la rentrée d'Antoine Dupont avec impatience, hein, c'est sûr que... on va voir ça, oui. Non, puis, finir par l'Angleterre, je crois que c'est ce qu'on peut attendre de mieux, quoi.
Antoine Dupont, oui, qui revient, mais qui ne sera pas associé normalement à Ntamack, puisque Ntamack est blessé au dos. Donc, ça va être intéressant aussi de voir Mathieu Jalibert évoluer en tant que titulaire, parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu sa chance, mais là, depuis le début de la saison, il survole vraiment, que ce soit le championnat ou la Coupe d'Europe, il fait ce qu'il veut sur un terrain. Donc, avec une charnière Dupont-Jalibert en pleine forme, je pense que ça peut faire des étincelles et ça peut donner aussi un peu plus de fougue à cette attaque française, notamment au niveau des trois quarts.
Et donc être plus performant pour la Coupe du Monde.
Ouais.
Voilà.
Complètement, c'est déjà la Coupe du Monde dans la tête de tout le monde où on prend ce tournoi quand même. Voilà, mais c'est quoi coachs, c'est une bonne préparation pour la Coupe du Monde ou c'est un peu autre chose?
Ils sont dans la compétition, mais les responsables, ils pensent et tout ça se prépare déjà quand même.
Oui,
un peu.
Il y a pas mal de turnover déjà sur l'équipe. Galtier intègre pas mal de nouveaux joueurs. Donc
quelques anciens en laissant la maison.
Aldrit qui a été mis sur le côté. Voilà. Aldrit qui est sur le côté, donc Ficou aussi. Donc voilà, les tauliers, entre guillemets, sont mis un peu à l'écart. Donc et puis ils donnent la chance à de nouveaux joueurs. Donc c'est une bonne chose aussi.
On parlait de Romain Ntamack il y a un instant. Je vous conseille, j'avais déjà fait de la publicité pour le documentaire sur Ramos sur Canal+. Il y en a un sur Romain Ntamack qui est juste énormissime. Voilà, j'adore.
À voir.
Exactement. Donc France. Irlande, ça sera à suivre vendredi matin, 7h10, heure de Nouméa, parfait pour le petit-déj avant d'attaquer le week-end. Et puis on aura des choses à se raconter lundi prochain. On va passer au foot, si vous le voulez bien, avec une double actualité. D'abord le championnat de France de Ligue 1, puis on parlera de la Ligue des Champions un peu après. Alors le championnat de France, je vous rappelle les résultats du week-end. Lens qui s'est imposé 1-0 sur Le Havre. Le match nul, 2-2 entre le Paris FC et Marseille. La victoire de Lorient 2-1 sur Nantes. La victoire de Monaco 4-0 sur Rennes. Lyon qui a battu Lille 1-0. 0-0 entre Toulouse et Auxerre. Angers s'est imposé 1-0 sur Metz. Match nul, 2-2 entre Nice et Brest. Et puis victoire ce matin, un peu difficile, du Paris Saint-Germain 2-1 sur la pelouse de Strasbourg. Éric, on va commencer par Marseille, comme ça sera fait.
Alors on va déjà commencer par Marseille en parlant de cette semaine quand même qui a été catastrophique, cataclysmique. Voilà, on peut employer plusieurs. Alors après, on peut toujours dire on peut toujours dire.
Pensé pour toi.
On peut toujours dire ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, blablabla. C'est passé tout près, blablabla.
Moi non plus.
Non mais souvent tu sais quand les équipes perdent ou quand les joueurs perdent, effectivement, on a du mal. Souvent, on ne veut pas leur taper sur la tête. En fait, il faut appeler un chat un chat. Quand un joueur ou une équipe est extraordinaire, on le dit. Et puis, ces joueurs-là, ces équipes-là sont très contentes de l'entendre. Et puis, quand ils sont nuls, quand ils sont mauvais, et je peux parler de l'OM, puisque je suis un supporter de l'OM depuis ma naissance, autant quand je parle de Paris, on peut toujours dire, oui, mais enfin, voilà, tu supportes l'OM, donc voilà. Non, là, c'est mon... voilà, là, c'est mon équipe.
Je te
donc,
laisse
du coup, c'est nul. Voilà, ils se sont fait éliminer piteusement...
En Ligue des Champions.
Piteusement en Ligue des Champions, et puis ça s'est revu, d'ailleurs, un petit peu ce week-end en championnat, puisqu'ils mènent 2-0 contre le PFC. Ils ont plutôt le match en main, sans jouer, voilà, parce qu'en fait, faut pas se raconter d'histoire non plus, hein. L'OM a fait quelques matchs spectaculaires cette année, avec beaucoup de buts, donc avec voilà, avec beaucoup de plaisir à donner aux supporters. Mais en fait, dans le jeu, c'est quand même pas extraordinaire. Et forcément, ce up and down régulier, un coup oui, un coup non, un coup bien, un coup mauvais, eh ben voilà, ça finit par malheureusement payer dans le mauvais sens. Et puis c'est aussi la conséquence. Alors après, c'est toujours facile, encore une fois, de dire, hein, quand on regarde les résultats, on critique, on commente. Ben oui, mais on est aussi là pour ça. Et puis et puis on a le droit de donner notre avis.
Juste une petite parenthèse, Eric. En tant que supporter, qu'est-ce qui fait le plus mal pour l'élimination en Ligue des Champions ? C'est de perdre le dernier match 3-0. Les deux derniers matchs,
on peut dire les deux. Voilà, 3-0, voilà, deux fois 3-0. Contre Liverpool encore. Oui,
contre Liverpool, non, ça passe.
Voilà, je suis d'accord avec toi.
Voilà. Mais et franchement, se faire éliminer par un but du gardien du Benfica à la dernière minute de jeu contre le Real.
Non mais ça c'est juste pour l'histoire.
Oui, c'est
en
ça.
En fait, tourner le ballon derrière voilà, pour prendre un quatrième.
Ils n'ont pas à perdre 3-0 à Bruges. Un match nul leur suffit, et même une défaite 1-0 leur suffit. Alors évidemment qu'ils n'y ont pas été pour perdre 1-0, bien sûr, et pas pour faire match nul non plus. Mais non, c'est juste en fait leur prestation qui est lamentable. C'est Bruges. Alors évidemment, Bruges a fait pour le coup son match et a obtenu ce qu'ils étaient venus chercher, c'est-à-dire la qualification pour les barrages, et bravo à eux, mais je suis désolé, quand on est l'OM, et quand on prétend à titiller le Paris Saint-Germain, à jouer la Coupe d'Europe tous les ans, et puis à redevenir un grand d'Europe comme il l'a été il y a maintenant quelques décennies, malheureusement, eh ben on montre pas ça. Donc oui, bien sûr qu'on peut perdre, hein, quelle que soit la discipline, que ce soit en individuel ou collectif, la défaite n'est pas interdite et elle n'est pas du tout honteuse, la défaite. Hein, on est toujours 1 contre 1 ou 11 contre 11 en l'occurrence, et puis les deux équipes veulent gagner. Donc à la fin, il n'y a qu'un seul vainqueur.
Mais vous êtes colère quand même.
Pas de problème, je suis très colère.
Mais l'OM
comme d'autres, hein, c'est pas pareil. Là on parle de l'OM évidemment, parce que c'est une équipe qui intéresse finalement tout le monde, comme Paris intéresse tout le monde, même si on n'est pas forcément supporter. Mais oui, à un moment donné, et puis c'est surtout aussi, je pense, ils payent directement la politique sportive de ce club, qui fait qu'ils achètent à tour de bras, ils revendent à tour de bras. On a un entraîneur qui est un très bon entraîneur d'ailleurs, je vais pas le critiquer, mais qui dit le lundi, non, mais ce joueur-là, c'est comme mon fils, et puis le vendredi, le joueur est parti, il a été mis dehors. Et il y en a plusieurs comme ça. Donc à un moment donné, on peut pas acheter des joueurs d'ailleurs qu'on ne connaît pas, ou très peu, qui viennent d'on ne sait où et qui se repartent 6 mois après ou 1 an après en n'ayant finalement pas fait grand-chose. Il faut des lignes directrices, il faut de la continuité dans les clubs, pour les athlètes. Voilà, il faut avoir des entraîneurs qui sont là longtemps. Voilà, on peut pas changer toutes les 5 minutes.
Éric Figuère, futur président de l'Olympique de Marseille,
manager,
Olivier, manager, Olivier Degnaud. Vous, c'est plus Paris Saint-Germain.
C'est plus Paris,
mais quand même.
Il me semble que l'OM menait 2-0 en plus contre
absolument,
le Paris FC.
Ils sont
remontés à la dernière minute ou dans les arrêts de jeu. Oui. Bon, Paris, oui, ils ont gagné contre Strasbourg. Bon, ceci dit, Strasbourg est une belle équipe.
Excellente équipe.
En championnat. Ouais. Et puis, si on parle de la Coupe d'Europe, ils menaient 1-0, ils se sont fait remonter un partout.
Et puis, c'est barrage.
On s'attendait pas à ça, quoi.
C'est barrage.
On s'attendait plutôt à ce qu'ils gagnent.
L'an dernier, c'était barrage, et puis ils ont fini.
Bon, là, ils jouent Monaco.
Ils jouent Monaco, oui.
On verra maintenant. Bon,
ça hypothétique pas leur chance de gagner la Coupe d'Europe.
Non, on est d'accord. On est d'accord, mais normalement, ils auraient dû passer sans les barrages. On s'attendait à que ils gagnent le dernier match au Parc des Princes.
Ils ont d'autres certitudes, Paris, que...
Par contre, moi qui ai regardé le multiplex, parce que j'ai pas regardé un match plus qu'un autre, je me suis régalé, le multiplex. Il y avait combien ? Il y avait 18 matchs en même temps, donc ça veut dire que toutes les minutes, il y avait un changement de terrain, avec des... Avec des buts, soit des pénaltys, soit des cartons, soit des fautes, Et le classement, j'ai passé pas mal de temps à regarder mon téléphone pour voir le classement en même temps, qui changeait et en haut pour les barrages et en bas pour la 24e place. Et jusqu'à la dernière seconde, quand tu vois ce gardien de but qui monte Voilà, c'est le gardien de but qui va marquer contre le Real quand même.
Parce qu'à 3-2, dis, mais, à 3-2, Benfica ne passait pas.
Non, non. Et Marseille était
qualifié. Mourinho pensait qu'à 3-2, ils étaient qualifiés.
C'est ça.
Voilà.
Et l'OM, quand le match de l'OM est terminé, ils sont qualifiés.
Oui, et d'ailleurs, dans le stade, sur l'écran géant du stade, félicitations à Marseille, bon courage pour la suite.
Mais là, on ne pouvait pas attendre mieux. Alors, moi, je n'étais pas fan de cette formule de Coupe d'Europe, là, le premier tour avec les 8 matchs.
Il n'y a pas grand monde qui a été fan avant que ça commence.
Finalement, quand tu vois cette dernière journée dans l'incertitude, alors tout le monde dit oui, on ne peut pas regarder un match en entier parce que c'est mieux un match bon, pour le mardi, enfin nous, le mercredi, jeudi. Là, il y a eu tout en même temps. Finalement, j'ai trouvé mon compte. Moi, voilà, jusqu'à la dernière seconde. Après, je devais partir. J'écoutais à la radio l'OM qui est éliminé. J'ai pas cru. J'ai pas cru le midi. Allez, j'ai mis l'équipe TV. Puis j'ai.
Bruno Salvay sur le foot. Vous suivez un peu, non ?
Pas du tout.
Non, donc, c'est pas
le sport roi.
Ouais,
moi, les manchots, les pousses cailloux. Non, je plaisante.
Il tombe.
Non, je regarde de temps en temps, mais.
Tu le pousses un peu, il tombe par terre.
Voilà, c'est ça.
Il crie en plus. Il roule et il crie, c'est ça.
Ça, c'est pas ma tasse de thé, on va dire.
Ouais. Bon. Même il se fait tomber tout seul, rappelle-toi Ravanelli à l'époque.
Ah oui,
putain, le fameux penalty de Ravanelli.
Il y a eu des grands spécialistes. Il y en a encore.
Ça y est, on va refaire le match. On va remonter au poteau carré tout à l'heure.
Oui. C'était il y a pile 50 ans, cette année.
Au poteau
76,
carré.
Exactement. Dans quelques mois.
Révéli. Et bon, il y a le championnat, parce que tu as commencé par parler par le championnat.
Oui, alors,
le championnat.
Reprenons.
Bon, Paris a repris la main, on le savait. Et voilà, ils conservent leur avance. Ils n'auront qu'un candidat en phase 2, c'est Lens. Voilà, clairement, et qui continue d'ailleurs son petit bonhomme de chemin, et qui va leur mener la vie dure jusqu'au bout.
Ça me fait mal de dire ça, mais il y a quand même Lyon qui revient derrière.
Lyon va revenir
mal, de le dire.
Lyon va revenir surtout
hein.
fort pour passer l'OM. Mm-hmm. Voilà, ça c'est ce qui risque d'arriver et ce qui va très certainement arriver si ça continue. De là à rattraper évidemment Lens et Paris, non, bien évidemment. Mais ils restent sur 10 matchs consécutifs, 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, Lyon. Hein.
C'est ça.
Donc c'est quand même
qualifié
pas rien.
En Coupe d'Europe.
C'est quand même pas rien. Ils ont fini premier des qualifications. Mmh. Donc c'est beau.
Ouais. Mais ça fait mal. Saison. Mais ça fait mal.
Oui, je vous assure. J'entends bien.
un petit mot sur Monaco, qui est que dixième, j'allais dire, du classement.
Alors, Monaco retrouve
au championnat.
Un petit peu des couleurs,
ça marche pas trop mal en Ligue des Champions.
Ils se qualifient, ils passent par la petite porte quand même. Hein, mais ils ont fait le job en faisant un bon match nul contre la Juve.
Ils en avaient besoin financièrement, d'après ce que j'ai vu aussi.
Oui.
Il y a un petit souci.
En championnat, ça va, ça vient. Là, ils ont retrouvé un peu des couleurs. Ils battent largement Rennes, qui est quand même un candidat à l'Europe. Donc c'est une bonne opération pour eux. Ils sont quand même trop loin aujourd'hui pour pouvoir espérer revenir, même si, encore une fois, mathématiquement, on peut rêver, bien sûr. Mais avec des rêves, on ne va pas toujours aussi loin qu'on le voudrait.
Exactement. D'autres choses à rajouter sur le football, Olivier ?
Oui, je disais que pour Marseille, maintenant, il reste la Coupe de France. Il y a un petit match contre Rennes qui se profile à l'horizon.
Avec
le petit sourire.
Sourire, parce que s'ils se font éliminer... s'ils se font éliminer contre Rennes, là, on va reparler de l'OM.
Il reste justement que ça. Voilà, puisque la Coupe d'Europe, c'est fini. Le championnat, c'est terminé. Ils vont essayer d'obtenir la troisième place qualificative. Ils courent après un titre depuis trois décennies. Voilà. Donc, il est temps. Et ça passe par Rennes d'abord. Et puis il faut reconnaître, Paris a été éliminé. C'est l'année ou jamais pour tous les autres, en fait. Hein, puisque même si de temps en temps Paris perd en finale de la Coupe de France, c'est quand même très, très rare qu'ils ne la gagnent pas. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus là. Donc je pense que tous les autres clubs doivent avoir des étoiles dans les yeux. Et tous rêvent de gagner cette Coupe de France, qui reste malgré tout un monument du football.
Du football, effectivement. On en a fini pour le foot. Oui. On passe au tennis.
On va pouvoir parler golf.
Avant de parler golf, mais si vous voulez parler golf, Eric, avec grand plaisir. Non, tennis, parce qu'il y avait le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, l'Open d'Australie, à côté de chez nous, à Melbourne. Victoire chez les messieurs de Carlos Alcaraz, et victoire chez les dames
De Rybakina,
effectivement, qui s'est imposée sur la numéro 1 mondiale, sur Sabalenka. On commence par les dames, peut-être ? puisque vous disiez, Eric, petite surprise ?
Petite surprise, pas énorme surprise, parce que ça reste une des toutes meilleures joueuses du monde, Rybakina. Maintenant, Sabalenka restait sur deux victoires, je crois, consécutives à Melbourne. Donc ça restait la grande favorite. Bon, elle s'est fait bousculer, et puis la victoire ne souffre pas de contestation.
Quand on regarde, là j'ai sous les yeux les demi-finales, on voit chez les dames qui a la tête de série numéro 1, qui a la tête de série numéro 5, 6 et puis 12. C'est beaucoup plus resserré chez les messieurs, mais chez les dames, c'est un peu plus ouvert.
Je ne suis pas le grand spécialiste du tennis, il y en a d'autres qui connaissent mieux que moi, mais chez les filles, ça a toujours été plus ouvert, même si... Les mêmes quand même gagner globalement les gros tournois, mais ça a toujours été beaucoup plus ouvert que chez les garçons où il y a eu le Big Four, le Big Three, etc. Aujourd'hui, le Big Two, même si un troisième aimerait bien rabattre les cartes, mais on va en parler après.
Une petite mention spéciale à Madame Svitolina, qui est Madame Monfils en fait, Madame Gaëlle Monfils.
Exactement, voilà. Qui a fait un très beau tournoi, demi-finale, c'était la première fois pour elle, demi-finale en Grand Chelem, donc c'est beau. Elle
a de l'ambition. Et l'année où son mari termine sa carrière.
Elle a de l'ambition, elle a la chance d'être accompagnée, parce qu'ils vivent une très belle histoire, et c'est toujours très beau de voir deux sportifs de haut niveau dans la même discipline, qui plus est de pays différents, avec un enfant, etc. Donc c'est quand même une belle histoire, et de s'entraider, de se supporter, parce qu'il y en a toujours un qui est dans les tribunes quand l'autre joue, donc c'est assez formidable. Elle peut légitimement avoir un peu d'ambition pour cette année, et pour les deux ou trois ans à venir.
On passe aux messieurs, finale, j'allais presque dire de rêve, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, victoire d'Alcaraz en 4-7, même si le vieux, entre guillemets, Djokovic a remporté le premier set, derrière Alcaraz a déroulé, puis on a eu des super demi-finales, Alcaraz-Zverev et puis Djokovic-Sinner.
Il y a beaucoup à dire là, pour ce tournoi quand même. Oui. La qualification de Djoko en finale, en n'ayant pas joué le 8e blessure, il n'a pas eu d'adversaire. Ensuite il joue l'écart, il est mené 2-0, 2-7 à rien, il est vraiment dominé. Alors on ne sait jamais avec Djoko, hein, ça reste un monument, il aurait très bien pu revenir, mais c'était quand même très mal embarqué, il l'a reconnu d'ailleurs, et puis abandon de son adversaire. Il joue Sinner en demi-finale, pour le coup là il le bat, il n'y a pas grand chose à dire. On a bien compris que maintenant Sinner était en difficulté sur les longs matchs en 5-7, en plus de 4 heures, puisqu'il n'a jamais gagné un match en plus de 3h50 et en 5-7, donc c'est un vrai problème pour lui. Et puis c'est quand là, pour le coup, ça a été une surprise de le voir se faire battre par Djokovic, Djokovic gagnant, c'est jamais véritablement une surprise, mais aujourd'hui c'est plus compliqué pour lui. Et puis Alcaraz en demi qui bat Zverev avec un petit incident quand même. Moi j'aimerais bien qu'on en parle un peu sur l'arrêt pour se faire soigner, qui n'était pas en fait un soin, mais des massages pour crampes. Donc on dit très souvent dans ce studio, il faut respecter les règles. Ouais. Les règles, c'est valable pour tout le monde. On peut pas s'en affranchir, etc. C'est évidemment vrai. Et là, moi j'adore Alcaraz, hein, donc je suis très content qu'il gagne, je l'ai supporté toute la finale, donc il n'y a pas de souci. Mais il prend un arrêt pour des soins, il se fait masser parce qu'en fait il a des crampes. Et comme l'a très justement dit Zverev, alors on va dire, ouais, mais il a perdu, du coup il pleurniche, etc. Mais en fait il a raison. Les crampes, ça fait partie pas Olivier ni Bruno qui me contrediront, ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de la préparation. Bien sûr qu'avec la chaleur, tous les sportifs, aussi bien préparés soient-ils, peuvent vivre ce genre de problèmes, d'événements. Mais en l'occurrence, tu as des crampes parce que tu n'es pas assez bien préparé, ou parce qu'à un moment donné, tu t'es pas assez hydraté, ou parce que tout simplement, c'était trop difficile. Tu ne te fais pas soigner. Et donc, du coup, ça lui a permis, peut-être, très probablement, de remporter ce match et d'être en finale, et de gagner.
Au niveau du règlement, je crois que c'est interdit, hein, de se faire, je crois que c'est interdit de se faire masser pour cause de crampes. Et donc, c'est le médecin ou le kiné qui est venu et qui a.
Zverev a été virulent, hein, pour le coup. Hein, et Zverev a fait une grosse demi. Et puis, là aussi, perte contre Alcaraz, c'est pas non plus une surprise.
Hein. Non.
Et puis Alcaraz, ben, en finale, il s'est fait manger par Djokovic dans le premier set, parce que Djokovic a vraiment, vraiment joué à la hauteur 6-2, de 6-2, et puis vraiment en jouant à la perfection.
C'était impressionnant. Hein. Ouais. Et puis après, il s'est déréglé, mais vraiment, le premier set...
Voilà, après, il a commencé à lâcher quelques coups, et puis Alcaraz, le plus jeune vainqueur du Grand Chelem.
Du Grand Chelem, 22 ans, il a gagné tous les tournois du...
Les 4 tournois du Grand Chelem, c'est énorme. Ouais. Il entre déjà dans l'histoire, il était déjà rentré, mais... Mm-hmm.
Et l'ancien plus jeune, le plus vieux plus jeune, c'était Rafael Nadal.
C'est Nadal qui
avait gagné les 4 tournois.
Qui était d'ailleurs avec Gradin.
Exactement.
Le Djokovic a rendu un hommage assez émouvant, je trouve, à la fin.
Disons qu'il lui manquait quand même.
C'est vrai.
Olivier, tout à l'heure, vous nous parliez de récupération.
Oui.
Quand on parlait de l'intelligence artificielle, vous avez dit, en tennis, on en reparlera.
Non, mais parce que justement, Djokovic a 38 ou 39 ans. 38, qui vient de se faire 5-7 contre Sinner. Et c'était un match qui a duré quand même plus de 5 heures, hein, je crois, 5 heures à des poussières. Mm-hmm. Et qui doit se refaire la finale, donc le surlendemain. C'est maintenant, la récupération, c'est... vraiment à la base du tennis, hein, parce qu'ils ont enchaîné 2 semaines d'affilée de tournois. Bon, après, il a eu la chance, en effet, de gagner des matchs par forfait ou par abandon. C'est vrai que ça simplifie les choses, ça aide. Mais n'empêche que je sais que tout de suite après, ils sont obligés d'aller en conférence de presse, ils sont obligés de répondre aux partenaires, ils ont tout un chemin à suivre parce que ça fait partie du tournoi. Il y a eu d'ailleurs quelques polémiques avec les caméras qui sont un peu partout dans les peut-être pas jusque dans l'intimité des vestiaires, mais pas loin. Ouais. Et parce qu'il y a une joueuse qui a cassé sa raquette là, je sais plus laquelle.
C'est Coco Gauff qui est. Voilà, Coco,
Donc voilà cette polémique et les joueurs sont obligés de suivre ce protocole en athlétisme. Ils doivent passer par un petit chemin avec les partenaires. En rugby, la conférence de presse est obligatoire. Dans tous les sports, tu peux pas tout de suite aller récupérer, te faire masser, tout ça. Bah, eux, ils font ça. Après, hop, les soins, la douche, hop, et ils mettent les bottes de récupération pour les jambes. Je suppose que les épaules, au niveau des tendons et tout ça, ils ont dû être suivis de. Les boissons d'hydratation, et puis voilà quoi. Et le lendemain,
tout en sachant que dans ces tournois, il y a ce qu'on appelle la night session, la session de nuit, où on peut finir le match à minuit, 1h du matin, et derrière, il faut.
Et moi, j'avais eu la chance à l'époque de voir justement Djoko Nadal à Roland Garros avec Olivier Ledin, et j'étais avec José Marquez. On était là en compète, puis on a fini à 1h30 du matin le match, parce qu'il avait commencé à 8-9h, parce que le match d'avant avait été décalé. Pour rentrer, pour trouver un taxi ou un Uber pour rentrer, parce qu'il n'y a plus de métro.
Là, on parle de récupération pour le match suivant.
Oui,
quand on parle de Djoko et de ses grands seigneurs, là, que sont Nadal, puisque tu en parlais, et Federer et d'autres avant eux, bien évidemment, qui ont tous joué à leur meilleur niveau au-delà des 35 ans.
Bien sûr.
Et c'est pas seulement, ils ne récupèrent pas seulement pour le match d'après. Non. Donc ça suppose effectivement des années au-delà de la préparation physique, de la récupération, des soins, de la diététique. C'est vraiment.
Et Bruno, ça, dans le rugby, la diététique, etc., c'est quelque chose qui est, depuis la professionnalisation,
qui est pris en compte obligatoirement pour les joueurs. Il faut absolument veiller à s'alimenter correctement et à limiter les fameuses troisième mi-temps. C'est terminé. C'est fini la troisième mi-temps où on va tous boire un coup au bar et on finit à pas d'heure. Là, c'est terminé.
Boudjemal qui avait ramené. Il y avait un bus à Toulon.
Boudjelal,
il y avait le bus avec les bains glacés. Comme ça, pour que les joueurs tout de suite puissent faire la cryothérapie dans la foulée.
C'est vrai qu'en plus, en rugby, il y a des coups, il y a énormément de coups sur l'ensemble du corps, donc que ce soit les membres inférieurs ou supérieurs. Donc il faut vraiment aller se.
Le bus, pendant ce temps-là, il récupère.
Il se met dans les bains de glace. Absolument.
C'est pas tous les 15 jours en rugby, c'est toutes les semaines.
Il
faut récupérer des chocs et tout.
Et pour en venir à Djokovic, quand même, à 38 ans, c'est un seigneur quand même. Son discours à la fin, vous en parliez. Il est émouvant, mais il rend hommage aussi à Nadal, à Alcaraz. Il faut quand même savoir que le premier tournoi qu'il a fait à Melbourne, Alcaraz avait 1 an et Sinner avait 3 ans. Quoi.
C'est ça. Donc, ouais.
On voit un peu le parcours de cet homme.
10 finales sur 10.
10 sur 10, il a perdu la 11e.
On est content quand même de voir ces sportifs-là, ces seigneurs, ces géants du sport dans ces disciplines-là avec autant de tenues. Ça, c'est vraiment très beau, au-delà de la qualité de ces joueurs.
C'est pas mon favori, mon préféré quand il y avait Federer Nadal, mais aujourd'hui, je dois avouer qu'hier, j'avais un petit
peu de Djokovic. On va terminer avec déjà. Vos coups de cœur. Vos coups de cœur, vos coups de griffe. Je commence avec vous,
Mon
Bruno.
Coup de cœur, Jean-François en a parlé tout à l'heure dans le mini-journal, c'est bien sûr pour Yolaine Yango qui a décroché le titre de championne de Japon en rugby à 15 avec son club de Yokohama au poste numéro 15 derrière. Et une très belle saison puisqu'elle a été élue meilleure joueuse de l'année, donc récompensée sur l'ensemble du championnat. Donc un grand bravo à Yolaine qui, après avoir un palmarès quand même assez conséquent en rugby à 7, continue à compléter son palmarès à 15. Voilà, bravo.
Éric.
Puisqu'on m'interdit de parler de golf, je vais en parler quand même. On me baillonne ici.
Oui.
Donc,
vous ne reviendrez pas.
Un grand joueur et une grande joueuse en devenir. Justin Rose, qui a gagné ce matin le tournoi sur le circuit américain en Californie à 45 ans, en menant du premier tour au dernier tour. C'est assez fabuleux, en jouant moins 23, le record du parcours sur 4 tours. Donc c'est un joueur formidable, champion olympique. Là aussi, une tenue extraordinaire, un sportif comme on les aime et qui va faire encore une grande saison. Et puis, plus près de nous, c'est Ariane Klotz, la golfeuse de la Wengi, professionnelle pour sa deuxième saison sur le Ladies European Tour, qui est là en vacances actuellement. Vacances pour récupérer, pour se ressourcer, oui, mais pour travailler aussi. Et c'est une jeune femme formidable qui est évidemment une très bonne joueuse, une très grande joueuse, par la taille aussi, mais par le talent. Voilà, et qui est formidable, qui est bien éduquée, qui est bien élevée, qui est super gentille, voilà, qui est belle à regarder, à jouer. Et j'espère bien pour elle que cette année va être excellente.
Olivier.
Alors moi, ce serait plutôt un événement, là, puisque Bruno en parlait tout à l'heure, le match de rugby du tournoi des Cinq Nations est décalé à jeudi.
Ils sont six maintenant.
Ouais, putain, ouais, moi, je suis encore resté à l'ancien temps. Je suis un ringard, c'est définitif, je suis un ringard. Donc les Six Nations...
Siècle dernier.
Moi, je suis un mec du 20e siècle. Non, c'est pour les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont débuter vendredi, donc cérémonie d'ouverture en fin de la semaine.
À Milan.
Et c'est à Milan, Cortina.
Milan-Cortina,
ils ont une nouveauté. Il y aura deux cérémonies en même temps, porte-drapeau, c'est assez... Voilà, on va suivre ça de près. Quoi.
Et ben voilà, les JO qui commencent, les Bleus qui commencent donc ce week-end. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir pour ce nouveau numéro d'une semaine formidable.